Club de l'info, Florian Barbet.
Le médium, en fait, c'est tout simple. Il fait la connexion entre le monde des vivants et le monde des esprits. Donc, il est entre les deux mondes. Je trouve que c'est un challenge de pouvoir montrer qu'il y a cette vie après la mort.
Je ne peux pas croire qu'il y ait des esprits hors de notre cerveau.
Je ne crois pas qu'il existe des êtres supérieurs, des esprits ou des choses comme ça, mais je n'ai aucune preuve.
J'ai répondu à cette annonce parce que moi je suis très sceptique.
Je ne crois pas du tout à la vie après la mort.
C'est par refus de la mort que l'homme a inventé une vie après la mort. C'est une énorme lâcheté.
That's Céline's energy.
Est-ce que vous êtes prête?
Je vois des choses.
C'est comme si vous avez arrêté de vivre.
Est-ce que vous êtes prêt à suivre cette émission sur les médiums et la mort? Vous venez d'entendre quelques extraits de Médium d'un monde à l'autre, un film qui est à voir en ce moment sur les écrans romans. Il sera d'ailleurs au cinéma Cosmopolis à Aigle ce dimanche 13 novembre. La quête de spirituel intéresse les humains, trop de lignes droites et de postures cartésiennes sans doute dans nos vies dirigées par la raison, explique sans doute cet engouement pour ce qui est encore inexplicable pour l'après. Le film dont nous allons parler ce soir interroge ce qui est encore considéré par certains comme un tabou, par d'autres comme du charlatanisme, par d'autres enfin comme une possibilité, comme un soutien ou une vraie réponse aux questions que tous nous nous posons, les médiums. Ce soir, dans le club, on flirte avec l'au-delà. Et pour ce flirt, j'ai convié trois dames. Denise Gillian, tout d'abord, réalisatrice du film Médium d'un monde à l'autre. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être là. Céline Boson-Sommer, médium et guérisseuse à Martigny et protagoniste principale de ce film. Bonsoir.
Bonsoir.
Et puis Claire Guimain, doctoresse, FMH, oncologue à Montaix. Et vous avez participé aussi au film. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, on va commencer avec vous, Denise Gillian. Question rituelle, quelle a été la naissance de ce film, l'idée, le déclenchement, l'étincelle?
Bon, la mort est notre avenir à tous. Je me suis toujours questionnée sur ce qu'est la mort depuis l'enfance. En fait, cette question ne m'a pas quittée. J'ai eu la chance, il y a 10 ans, de faire un premier film sur les expériences de mort imminente. Un film qui s'appelle « Aux frontières de la mort » et qui donnait largement la parole à des personnes qui font l'expérience d'un décès du corps physique et qui relate les 2-3 minutes qui suivent ce décès-là.
Donc ça, c'est l'électroencéphalogramme plat.
Absolument.
Ça fait,
le cœur qui bat plus.
Et on est en mort.
Les médecins nous déclarent mort.
Voilà. Et puis on revient.
Et puis, voilà, au maximum 3 minutes après, la personne revient et témoigne de ce qui s'est passé. Et tous témoignent de la même chose, le fameux tunnel, la lumière, etc. Donc je dirais, après cette première expérience, ce premier film, j'en suis ressortie avec la certitude que nous habitons notre corps et que notre conscience, notre mémoire se délocalise de notre corps physique. Sauf que les témoins qui nous relatent ça ne sont décédés que 2-3 minutes à tout casser. Donc la question qui subsiste, évidemment, c'est « et après ?» Qu'est-ce qui se passe? Pour ceux qui ne reviennent pas. Et à part les médiums, il n'y a pas grand monde qui peut en témoigner. Donc voilà, 10 ans plus tard, c'est un peu le deuxième volet avec Médium d'un monde à l'autre.
Et alors, vous êtes parti dans l'aventure de ce film, avec d'ailleurs, comme pour le précédent que vous venez d'évoquer, la collaboration d'Alain Gaillard, journaliste.
Maillard.
Oui, Alain Maillard, le journaliste qu'on connaît bien à radio, voilà. Qui co-signe en fait un livre en parallèle. Ce sont deux expériences parallèles sur le même sujet.
Oui, alors pas tout à fait parallèle dans la mesure où j'ai fait le film d'abord et pour le film j'ai recueilli 44 heures d'interview. Et quand Alain Maillard s'est aperçu qu'il y avait un matériel d'une telle richesse, il a trouvé un peu dommage que ça passe à l'as,
étant donné qu'il y a le film ne dure
qu'une heure. Donc du coup, il a récupéré ce matériel pour le structurer, pour voir si un bouquin était possible à partir de là. Et puis oui, un livre était possible, il a un peu complété les interviews. Et voilà, et du coup, on sort le double produit livre et film, qui, je dois le dire, sont complètement indépendants l'un de l'autre. On peut lire le livre sans voir le film, inversement.
Ou on peut voir les deux.
Aussi.
Évidemment. Ouais. Je le disais, il y a un tabou, il y a une suspicion de charlatanisme. Est-ce que vous avez eu des difficultés à faire ce film? Est-ce que vous avez trouvé les financements facilement? Ou on vous a dit vous allez aller vers des charlatans qui mettent des petites annonces dans les journaux?
Alors, c'est une excellente question parce que je suis habituellement plutôt dans des sujets sociaux. Et mon dernier film donnait la parole à des condamnés à perpétuité en Suisse. Et j'ai trouvé beaucoup plus difficile de travailler avec le sujet de la médiumnité qu'avec des condamnés à perpétuité. Il y a effectivement un tabou, il y a quelque chose, dès qu'on touche au spirituel dans nos sociétés matérialistes, c'est comme ça que j'explique, il y a quelque chose qui est encore très... on nous traite un peu de gentils naïfs et de personnes crédules. Cela dit, je pense qu'il y a un vrai besoin des gens de se relier de nouveau à quelque chose de plus spirituel. Et le tabou existe plutôt dans les milieux culturels ou dans les médias, mais très peu chez le grand public, parce que je dois dire que jusqu'à maintenant, le film est plutôt très très bien accueilli.
Vous citez une enquête, dans le dossier de presse en tout cas, 30% des Suisses, selon un sondage que vous citez, considèrent le spiritisme comme vraisemblable. Donc 30%, ça fait presque un parti majoritaire en Suisse, ça fait quand même beaucoup de monde.
Ça fait beaucoup de monde, et aussitôt qu'on commence à parler du sujet dans les bistrots, dans des cercles d'amis, etc., on est étonné parce que tout le monde a une histoire de fantôme dans sa poche. Alors les gens ne racontent pas facilement, de nouveau, parce qu'il y a une image de marque des fois à préserver, mais tout le monde a vécu quelque chose, une histoire de fantôme dans sa poche, ou une histoire de... a fait appel à quelqu'un qui a le secret lors d'une brûlure, ou pour une verrue, ou une hémorragie.
On a le côté guérisseur.
Oui. Ouais. Bon, parce que les médiums agissent, parlent avec des défunts ou sont les porte-parole de guides spirituels, mais il y a aussi des médiums guérisseurs. Et Céline Bozon-Sommer, qui est le personnage principal de mon film, a cette double fonction.
On va lui en parler. C'est Céline Bozon-Sommer. On parlait là de cette image qu'il peut y avoir de la médiumnité. Décidément, j'ai du mal avec ce mot. Est-ce que vous, dans votre pratique quotidienne, on vous accuse, vous ressentez cette pression de la société, finalement, de charlatanisme, de profiter de la misère des gens? J'ai vu qu'il y avait une petite polémique en Valais au moment où... Il faut peut-être raconter l'histoire, en fait. Pour le film, vous avez mis une annonce dans la presse qui disait, si vous ne croyez pas au médium, venez nous voir pour essayer, et puis ça sera un film qui passera à la télévision, etc. Et juste après ça, petite réponse dans le Nouvelliste quand même.
La petite annonce a passé dans le Nouvelliste. Mmh. On cherchait des personnes sceptiques qui ne croient pas en la vie après la mort, de façon à recevoir une séance de médiumnité contournée. Et une semaine après, le Nouvelliste a fait une pleine page de mise en garde de la population contre les pratiques sataniques des médiums, disant le médium en général est parfait, fait tout bien, 2, 3, 4 séances, mais à la quatrième séance, Satan va vous manipuler à travers eux, attention.
Et ça avec témoignages de prêtres, etc. Depuis que le film
en
est sorti,
vous avez eu témoignage d'un abbé.
Vous avez eu une interview dans Nouvelliste.
Oui.
On ne va pas taper sur Nouvelliste.
Oui, mais absolument, et qui s'est très bien passé.
Tant mieux. Céline Bozon-Sommer, je vous repose la question. Donc, est-ce que vous sentez-vous dans votre pratique quotidienne cette pression de la société, ce doute?
Non, pas tellement. En fait, je crois que quand j'ai commencé de faire de la médiumnité, peut-être plus parce que moi-même, je n'étais pas au clair avec la médiumnité. Est-ce que vraiment je suis une médium ou pas? Après, quand vous êtes certain de votre don et pratique, il n'y a plus de doute. Je veux dire, les gens qui viennent vous voir, ils viennent parce qu'ils ont choisi de venir vous voir. Donc, j'ai pas de personne qui vienne me voir pour voir.
Vous n'avez jamais tagué votre porte, dessiner des Belzébuth sur la boîte aux lettres, non?
Non, plutôt à l'entrée de mon atelier, il y a une petite boîte à mots doux, plutôt.
Ah, c'est très bien.
C'est plutôt sympa, je dois dire.
Vous avez prononcé le mot de pratique et le mot de don. Alors, moi, j'aimerais savoir, est-ce que c'est un don, vraiment, ou est-ce que c'est quelque chose qui s'entraîne et que chacun en soit? Moi, j'ai vu dans des articles certains de vos collègues, qui dit, mais tout le monde peut être médium, il suffit de déclencher le bon lobe du cerveau, apparemment.
Et je suis tout à fait d'accord avec ça, mais je pense pas que c'est le lobe du cerveau qu'on doit vraiment déclencher.
Pas pour moi.
À mon avis, si vous voulez, du moment où on a un corps physique, un corps psychique et un corps spirituel, donc une âme, on peut travailler avec le monde spirituel, puisque je travaille avec mon corps spirituel pour entrer en communication avec d'autres corps spirituels, qu'ils soient dans le monde des vivants ou dans le monde des esprits. D'accord. Donc vous pouvez le faire, vous avez l'équipement de base pour ça, ça c'est pas de problème. Maintenant, il faut savoir si vous y êtes intéressé ou
j'ai
pas.
J'ai pas toutes les options, c'est ça?
Si.
J'ai toutes les
vous
options.
Avez la totalité, pas de souci. Par contre, est-ce que vous y êtes intéressé? Ça c'est la vraie question. Maintenant,
quelle est votre étincelle, votre déclenchement? Qu'est-ce qui vous a fait vous dire un jour
Alors, je pense que depuis toute petite, ce qui m'intéressait, c'était toujours en rapport ou en lien avec les gens et la santé. Mais de quelle manière, je ne savais pas. Il a fallu arriver vers 26 ans pour commencer d'étudier la médiumnité dans un collège qui s'appelle Arthur Findlay en Angleterre.
Alors ça, on va en parler.
D'accord. Pour que là, les pièces de mon puzzle qui étaient éparses se remettre
pour aller,
en une.
Pour aller jusqu'à étudier en Angleterre, dans un collège prestigieux d'ailleurs, hein, vous en parlez aussi dans le film, j'imagine. Je précise que je n'ai pas vu le film, moi, mais il est à voir à Aigle dimanche, hein, le 13 novembre. Pour avoir ce déclenchement d'aller faire des études en Angleterre, il a bien fallu quelque chose avant. Comment on se dit, tiens, je ne vais pas être médecin, je ne vais pas être infirmière, je vais aller vers...
Mais je pense que justement là, c'est le don. Ça veut dire que le don, pour moi, c'est quelque chose qu'on fait d'une manière innée. On ne sait pas pourquoi, on ne l'a pas vraiment appris, mais il y a un truc qui se passe. Mmh. Et on est attiré par ça. Et donc, je pense que chacun a un don d'une manière ou d'une autre, sur un sujet ou un autre. Après, vous pouvez choisir de le développer, vous pouvez le laisser tel que. Je pense que si je décidais d'être journaliste à votre place, je pourrais être un super journaliste.
Non, pas à ma place.
Aller un bon... Mais oui, pourquoi pas. Aller un bon bout, mais je ne serais peut-être pas excellente, parce que je pourrais apprendre, faire du bon travail, mais pas être excellente. Par contre, si j'avais un don à la base et que je le développe, peut-être que je pourrais aller jusqu'à l'excellence. C'est la même chose pour la médiumnité.
J'espère que c'est une façon détournée de me dire que je ne dois pas aller vers la médiumnité parce que je suis excellent là où je suis. Claire Guillemin, vous êtes médecin, oncologue, et on parlait de réactions de fermeture, de peur vis-à-vis des médiums, puisqu'il y a eu des réactions un petit peu virulentes. Vous avez au contraire, alors pour quelqu'un qui vient du monde très rationnel de la médecine, fait preuve d'ouverture d'esprit, puisque vous participez au film et vous ouvrez votre cabinet au film et à ce médium qui est là avec nous.
Alors effectivement, je suis radio-oncologue, hein, et donc dans le rationnel absolument pur, hein, dans la technicité, puisque je travaille avec le rayonnement et dans le domaine du cancer. Mais par contre, dans le domaine du cancer et travaillant dans le rayonnement, on est touché par la problématique humaine, on est touché par la problématique de mort, et de toute la souffrance qui est autour de la mort et l'éventualité de l'après-mort. Qu'est-ce qui se passe après-mort? Et de toutes les pratiques de guérison qui existent autour du globe. Hein, il y a des pratiques qui existent depuis des millénaires, de toutes sortes de formes. Et avant qu'on ait notre médecine biotechnologique, on utilisait toute cette forme de médecine. Et moi, je trouve bien dommage, comme humaine, comme femme, comme médecin, comme scientifique, de ne pas aller explorer tout ce qui existe.
Parce que vous savez que c'est pas très fréquent dans votre milieu, hein, ce genre.
C'est bien dommage, parce que c'est la preuve d'un être scientifique, celui qui s'intéresse. Et pour moi, moi je viens d'un milieu très rationnel, mon père était physicien, mais c'est un chercheur, donc les chercheurs, il faut chercher. Et il faut chercher, et je pars du présupposé que plus vous cherchez, plus vous allez trouver, plus vous allez ouvrir. Et moi, j'ai été bassinée par des gens comme Einstein ou par des Bohr ou autres, donc, puisque c'était mon éducation d'enfance. Et c'est des gens qui ont cherché, hein, la vitesse de la lumière. Maintenant, on parle de au-delà de la vitesse de la lumière. Et pourquoi pas? Mais oui, tout ce qu'on peut imaginer peut arriver. Donc voilà, ça c'est là où je suis partie il y a X années en arrière, à travers les soins palliatifs, l'approche de la mort, à ouvrir cette portion plus différente de qui on est.
Dans le fond, pardonnez-moi l'expression un petit peu triviale, mais tout ce qui entre fait ventre, tout ce qui peut faire du bien au patient...
Ça, voilà. C'est ma vision. Mmh. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément besoin de tout expliquer maintenant. Il y a des choses qui sont inexplicables. Pour nos arrière-grand-mères, l'électricité, c'était inexplicable. Aller expliquer à quelqu'un comment marche un portable, voilà. Et pour l'instant, on n'explique pas encore comment marchent les ondes de la pensée. Alors moi, je suis probablement, de par mon côté scientifique, j'ai pas de croyance particulière sur ce qui se passe après la mort ou pas. Hein. Moi, je me laisse emmener. Je regarde ce qui se passe au niveau factuel. Qu'est-ce qui se dit, comment se comporte la personne face à l'information qu'on lui donne ou l'information qu'elle reçoit.
C'est intéressant ce que vous dites là. C'est vrai que si on a des voitures aujourd'hui, comme vous le disiez, le téléphone portable, si on vole, hein, qui aurait imaginé il y a quelques siècles qu'on volerait, qu'on ferait quelques heures pour aller en Amérique, qui aurait même imaginé il y a quelques siècles qu'il y avait l'Amérique, hein. Voilà, donc l'aventure, la découverte, ça fait partie de l'humanité. Et ça, c'est quelque chose de nigilant dont vous vous étonnez, c'est que finalement, cette recherche-là qui touche à l'essentiel, puisque la mort, on se pose quand même tous un petit peu la question, il y a les croyances qui viennent là-dedans, on nous promet quelque chose suivant les croyances, mais il y a très très peu de recherche, en fait, on n'ose pas. Il y a quoi? Il y a un tabou, il y a un truc.
Ouais, je trouve très très important ce que vient de dire Claire Guimin, parce que c'est vrai qu'il y a encore 100 ans, on pouvait pas imaginer qu'on allait s'envoyer des images d'une seconde à l'autre du Japon à la Suisse. C'est quelque chose qui était inconcevable. Donc je ne comprends pas actuellement la frilosité des milieux scientifiques à étudier les états de conscience modifiés. Les grosses recherches qui se font sont plutôt faites en Amérique du Nord, très très peu en Europe. Nous avons cherché pour le film à étudier le cerveau de médiums en activité. On a eu beaucoup de mal à trouver des toubibs ouverts, à mettre un électroencéphalogramme sur la tête d'un médium. C'est dommage, parce qu'on aurait tout à apprendre, finalement, en étudiant ça.
Comme dit la chanson, c'est la faute à Voltaire, c'est la faute aux Lumières, c'est ça ? C'est le siècle des Lumières, la raison avant tout, qui fait qu'on s'est bloqué une partie de... Je reviens à mon lobe de cerveau, parce que c'est vrai, on a toujours dit ça, c'est qu'avant le siècle de la raison, on était beaucoup plus ouverts. D'ailleurs, certaines sociétés, aujourd'hui, le sont encore. Il y a des chamans,
Alors, je crois qu'on l'a été, tout partout dans le monde. Dans certaines sociétés, on l'est encore, comme vous le dites. Ici, Alain Maillard, dans le livre, l'explique ainsi. Il dit, avec l'arrivée de la psychanalyse, on a perdu le lien avec le spirituel.
C'est la faute à Freud.
Yes. C'est ce que Maillard, en tout cas, dit dans son bouquin.
On disait qu'il y avait une, vous avez dit une école, institut de recherche, un institut de recherche, on parlait des scientifiques là, aux États-Unis, je crois, en Arizona, j'ai lu ça dans un...
Il y en a plusieurs dans le monde, mais il y en a un qui est à Montréal, qui est dirigé par Mario Beauregard, qui régulièrement étudie le cerveau, soit de moines tibétains, soit de sœurs carmélites en prière, et il a beaucoup publié, Mario Beauregard, justement, sur le cerveau en état de conscience modifié. Il appelle ça, lui, le cerveau de Dieu. Quelle est cette part de nous qui, quand on se connecte au niveau spirituel, se met en action?
Et alors, il y a en Suisse une école.
Oui, alors ça c'est autre chose. Il y a des écoles de médiumnité qui permettent à tout un chacun, comme le disait Céline, de développer un don ou une capacité médiumnique. Je devrais plutôt dire, j'aime pas tellement moi le mot don. C'est une capacité qu'on aurait tous, comme un sixième sens ou comme une capacité à dessiner. Et voilà,
j'ai le matériel de base et les options.
Voilà, donc il y a une école à Neuchâtel qui s'appelle l'école Fréquence. Mais le collège de référence qui forme actuellement la plupart des bons médiums, je dirais, dans le monde, c'est l'Arthur Findlay à Londres, qu'on voit d'ailleurs dans le film, et qui ressemble étrangement à Poulard dans Harry Potter.
Alors, on va se tourner vers notre Harry Potter à nous, là, Céline Mauzon-Sommer. Vous confirmez d'abord, c'est ça, c'est une vieille bâtisse orange en briques, tout ça.
Exactement, c'est un vieux manoir anglais en briques rouges, un peu comme ça. J'ai eu 2-3 petites expériences très sympathiques.
Alors, je vais pas vous demander de nous faire un cours, mais qu'est-ce qu'on apprend, en fait ?
En fait, on peut apprendre toutes sortes de médiumnité. Justement, la médiumnité n'est pas seulement la médiumnité de contact. On peut faire de la médiumnité pour faire laisser passer de l'énergie de guérison, mais on peut faire aussi de la médiumnité physique, ceux qui font bouger les timbres, la planche Ouija avec toutes les lettres où il y a un petit plot qui vous commence de vous écrire un mot et puis une phrase. Il y a aussi de la médiumnité d'art. On peut faire de l'art médiumnique, dessiné. Il y a des gens qui dessinent les défunts avec qui ils parlent dans le monde spirituel. Il y a des gens qui font aussi des transes, ce que j'appelle la médiumnité sous contrôle, pour parler, pour donner des informations à un plus large public, une philosophie. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de sortes de médiumnités différentes. Et au collège, en Angleterre...
Des cours théoriques, cours pratiques.
Exactement, il y a des cours... Il y a une partie théorique et une partie pratique, bien sûr. Et là, ce qui est génial, c'est que vous avez les meilleurs cours, les meilleurs profs, et avec une ouverture immense sur toutes les sortes de médiumnités qui existent.
Alors moi j'aime bien l'idée que finalement ceux qui ont peur de ça sont eux dans un dogme, c'est-à-dire dans quelque chose de très carré et dont ils refusent de sortir. D'ailleurs j'ai aimé que vous mettiez en exergue de votre film une phrase d'Einstein qui est quand même pas le dernier, et qui met le doute comme vertu suprême, ce que j'aimerais qu'on marque sur ma tombe. Et puis après vous viendrez discuter avec moi. est-ce que vous savez des choses
temps de votre vivant, parce que quand même.
Oui, mais là, c'est bon,
une vie à côté de la médiumnité.
Vous parlez aussi aux vivants, c'est bien. Est-ce que vous savez des choses qu'on ne sait pas ? Est-ce que vous savez si Dieu existe ?
Alors, je ne sais pas si vous savez pas s'il existe. Mais par contre, je pense qu'en médiumnité, c'est clair, à force de travailler avec le monde spirituel, je me suis forgé ma propre idée de ce monde spirituel.
Maintenant, est-ce que vous augmentez vos croyances ?
Ah oui, très clairement. Oui, ça c'est sûr. Bon, je pense que je l'ai toujours été. très fortement. Donc là, on parle bien de ma croyance religieuse et non de mon travail. J'ai toujours cru en Dieu. Et maintenant, dans mon travail, quand je travaille en médiumnité, du moment où je vais dans ce monde spirituel pour dialoguer avec des personnes de là, j'ai quand même eu le temps de me forger une idée en plus de 15 ans de travail.
C'est un dialogue, c'est pas un monologue. C'est pas l'esprit vraiment... ne vient pas dire un truc. C'est un dialogue.
C'est un dialogue, oui. Oui, tout à fait.
Puis pourquoi alors est-ce qu'il y a des sujets que vous pouvez aborder, d'autres pas Est-ce qu'on peut enfin savoir des choses sur les grands mystères de l'humanité
En fait, par exemple, si je regarde avec un de mes guides, par exemple, que je connais assez bien, il a fallu très très longtemps pour que je sache qui c'est. Parce qu'il ne vient pas vous dire, voilà, je suis tel et tel, je m'appelle et j'habitais là et je faisais ceci. Il semblerait qu'il y ait une certaine petite conscience qui perde en partant dans le monde spirituel à un moment, à un certain temps. Je ne sais pas si c'est dû à plusieurs vies faites ou si c'est dû au fait qu'on arrive dans l'inconditionnel. Donc le bagage émotionnel s'arrête là. Au moment où vous partez. Maintenant, ce que je voudrais dire, c'est que j'ai rarement eu quelqu'un dans le monde spirituel qui m'a dit « Je m'appelle tel et tel, je viens de là et j'ai fait ceci et cela. » Mais bon, Il faut beaucoup de partage pour commencer.
Vous convoquez ou vous invitez, je ne sais pas quels sont les termes justes, des familiers de vos patients. Donc vous pouvez faire venir qui vous voulez ou non,
alors ce n'est pas moi qui décide qui vient du monde spirituel, c'est les personnes du monde spirituel qui se présentent. Mais par contre, je laisse ma porte ouverte à qui veut venir.
Et donc, je l'insiste un petit peu lourdement, vous m'excusez pour qu'on comprenne bien. Donc, c'est le patient lui-même, finalement, qui en arrivant dans votre bureau, dans votre office, va avec lui potentiellement être plutôt avec ses proches à lui qu'avec n'importe qui d'autre, c'est ça ou...
Pas vraiment. Si vous venez me voir pour une consultation de médiumnité, je vais vous dire tout de suite au téléphone que non, je ne peux pas choisir qui viendra vous voir du monde spirituel.
Si je dis que mon grand-père revienne...
Voilà, contre, je vous inviterai vous à l'inviter dans votre cœur en disant « je vais aller voir une médium et... » Voilà, grand-père, si tu m'entends, je ne sais pas encore si c'est vrai ou pas, mais si tu m'entends, viens me voir pendant ce moment-là, puisque je prends ce temps exprès pour ça. Voilà, là, vous pouvez l'inviter. J'ai rarement eu une déception de quelqu'un qui soit venu me voir et qui n'a pas eu la personne qu'il voulait. Mais ça arrive.
Et vous n'avez jamais eu la curiosité de demander à des gens, je ne sais pas moi, à Hitler, à Staline, à Carlos, Papayou?
C'est pas un jeu pour moi, si vous voulez. Non, ça m'a jamais vraiment passionné.
Non, mais moi, je ne parle pas d'un jeu, là. Je déconne un peu avec Carlos, mais on peut se dire, il y a des personnages historiques.
Non.
Mais pourquoi? Vous estimez que ce serait un jeu?
Disons que moi, ça ne m'amuse pas, c'est un travail.
J'ai pas choisi les plus sympas, c'est sûr, Carlos, Hitler, mais
j'ai déjà eu des personnes connues, mais c'est pas ça qui est intéressant. C'est en relation avec la personne qui venait me voir et chercher une information. C'était pas avec moi la relation. Donc oui.
Mais vous, si vous voulez faire cet exercice que font vos patients, vous devez aller voir quelqu'un d'autre.
Oui,
c'est ça.
Oui, ouais, c'est très agréable en fait. En plus, je vais me faire chouchouter une fois moi. C'est sympa.
D'accord. Claire Guimain, vous vouliez intervenir.
Oui, je voulais intervenir à propos de faire venir ou pas faire venir par rapport à certaines choses qui existent dans la littérature. Je ne vais pas du tout sur si c'est juste ou pas juste, mais il y a des personnes qui canalisent certains grands êtres de ce monde. On va mettre dans le bon ou le mauvais, on ne s'occupe pas d'Hitler ou autres, qui ont passé dans le monde spirituel et qui donnent des informations factuel sur ce qui s'est passé ou ce qui s'est pas passé. Donc ça, je pense qu'il y a un mouvement actuel. C'est un mouvement très très large, très global. Si vous lisez, puis moi j'ai lu beaucoup parce que je suis intéressée par toutes ces formes. Je veux dire ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, ceux qui pensent que c'est satanique, ceux qui pensent c'est de toute façon toutes des histoires de croyances. Dans ma vision très très cartésienne, parce que je peux parler cartésien, et c'est de dire il y a toutes sortes de choses et on peut inviter, c'est juste des fois notre pensée qui pense qu'on ne peut pas.
On peut tout en fait.
Moi je pense qu'on peut tout.
Denis Gillian, je vais vous donner le mot de la fin en rappelant que le film donc est à voir à Aigle au cinéma Cosmopolis ce dimanche. On parlait tout à l'heure du téléphone portable qui était tellement improbable il y a un siècle. Est-ce que vous pensez, on attribue la phrase à Malraux, le 21e siècle sera spirituel ou il ne sera pas. Est-ce que vous pensez que dans 5 ans, dans 100 ans, ça sera normal, ça sera les progrès se feront et qu'on va explorer ce monde-là comme on a exploré les autres.
Vous savez, c'est normal dans plein d'endroits du monde, déjà aujourd'hui, encore aujourd'hui, je devrais dire. Mmh. Alors, ça redevient habituel et normal ici aussi, et c'est en bonne voie, et à mon avis on est en plein dedans. Il ne s'agit pas de le projeter dans 10 ans, c'est maintenant.
Eh bien, si vous doutez, allez voir ce film, lisez le livre d'Alain Maillard aussi. Ça s'appelle Médium d'un monde à l'autre, à Aigle. Ça sera à la télévision l'année prochaine, puisque la TSR coproduit
le
film.
Pour le moment, c'est au cinéma.
Donc pour le moment, c'est au cinéma. Allez le voir et puis faites-vous votre propre idée là-dessus.